parole à Clarissa Carillo, qui, je crois, va nous parler du rôle de la diaspora ou des diasporas dans ces processus de justice transitionnelle.
On va essayer. Je parle sous le contrôle de plusieurs personnes dans la salle. D'abord, arrivés comme réfugiés, des hommes et des femmes ont su tirer profit de leur exil, même si les relations interpersonnelles demeurent complexes. Les diasporas jouent un rôle en matière de justice de transition. Elles ont une fonction de sensibilisation et d'information au sein de leur pays d'accueil. Elles participent donc aussi à l'établissement de la vérité. Cette implication dépend des opportunités offertes par les pays d'accueil. Les diasporas se confrontent également à des obstacles matériels, en tant que ressources financières, la langue, et à des obstacles psychologiques, des traumatismes, la volonté d'oublier, la peur des représailles. Ce ne sont que des exemples. Des victimes n'ont presque jamais parlé de leur expérience, se déniant parfois aussi jusqu'à leur qualité de victime. D'autres ont parlé au début, quand elles sont arrivées, croyant que leur témoignage allait servir la justice. Mais face à l'impunité, les revendications de justice s'essoufflent. Et donc certains se démobilisent et deviennent spectateurs de leur propre pays, de leur propre histoire. Une autre problématique existe dans le manque de dialogue sur les atrocités entre les victimes directes et leurs enfants. La mémoire se transmet par petits bouts avec beaucoup de pudeur. À cela, plusieurs raisons. La volonté d'oublier. La honte d'avoir perdu une bataille politique. La honte de s'être vu obligé d'exécuter certains actes. Le désir de ne pas transmettre la souffrance. Confrontée à ce silence, la jeunesse semble réagir de deux manières paradoxales. Le négationnisme ou la mobilisation en vue de s'approprier l'histoire au travers des informations qui circulent dans la sphère publique. D'où la grande importance notamment de toute la presse engagée. L'ouverture de procès donne une opportunité d'ouvrir le dialogue et de pousser les jeunes à s'interroger sur leur histoire. Les différentes diasporas sont capables de tisser des réseaux entre elles pour se soutenir et pour engager des dynamismes. Je pense que la journée d'aujourd'hui en est un exemple. Quoi d'étonnant compte tenu de leurs nombreux points communs. Les communautés partagent souvent les mêmes expériences de vie et d'intégration dans le pays d'accueil. Le contact avec la population locale peut constituer un pas dans la démarche de réconciliation personnelle. Elles sont confrontées au processus de deuil, à la problématique de la réconciliation. Elles sont toutes aussi dans la même revendication, la justice, le devoir de mémoire, l'obligation morale de porter à l'extérieur la parole de la population qui est restée dans le pays. Les diasporas s'organisent aussi avec les mêmes types d'événements. Des séminaires, des commémorations, des projections, et j'en passe. Les diasporas communiquent aussi avec leurs homologues installés dans d'autres pays. Le procès en Argentine pour les Argentins avec le juge Garson, ça a été également le cas de l'arrestation de Pinochet en Angleterre. Peut-être pour donner un peu plus de corps en fait à ce qui peut paraître comme ça très, très académique, Je tiens à vous parler en fait d'un cas peut-être un peu plus précis pour bien sentir ces choses. C'est un cas parmi d'autres, bien sûr, des disparus politiques en Argentine. C'est Fausto Carrillo, un avocat paraguayen qui a disparu en 1976 alors qu'il avait 31 ans. Son seul délit était d'exercer sa profession d'avocat de défense des droits humains et du droit du travail. Sa femme et sa fille, qui étaient alors âgées de 6 mois, ont été enlevées à la même date, mais dans le pays voisin, au Paraguay, alors qu'elles se rendaient en visite à leur famille. Interrogées par plusieurs mois dans la gendarmerie, elles ont toutes les deux, donc c'est la mère qui est interrogée bien sûr, la fille était juste coupable d'innocence. Elles ont donc été emmenées dans un centre de détention, où elles y sont restées plusieurs années, et où elles ont rencontré Martin Almada, qui plus tard a été le découvreur des archives de la terreur. Grâce à l'influence des ONG internationales, elles ont pu quitter le Paraguay une fois qu'elles ont été libérées et arriver en France, où tous les deux ans, elles allaient en Angleterre, puisque Fausto était donc parrainé par Amnesty International de la cellule allemande. Donc tous les deux ans en Allemagne, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Elles n'ont jusqu'en 1984 pas pu retourner dans leur pays. Elles ont donc attendu cette date-là. Elles n'ont pas pu non plus retourner au Paraguay beaucoup plus longtemps, puisqu'il y avait Stroessner. C'est une dictature qui a duré plus longtemps. Elles ont eu une grande espérance en 1984, puisque en se rendant sur le pays, elles ont pu trouver des personnes qui leur ont indiqué les endroits où on avait vu pour la dernière fois Fausto Carrillo. Et là, une loi d'amnistie a tout arrêté. On revenait un peu à la case départ, avec une reconnaissance de l'État sous une forme de récompense, une somme budgétaire accordée à des personnes. Mais là, s'arrêtait la réconciliation. Il y a quelques années, la Cour suprême d'Argentine a annulé ces lois d'amnistie. De nouveaux procès ont pu avoir lieu. Et avec ces nouveaux procès, il y a eu de nouvelles plaintes. Des personnes qui jusque-là, je parle dans les années 2005, n'avaient jamais dit ce qui leur était arrivé, ont porté plainte. Donc à travers cet exemple-là, on voit bien que plus que le juridique et le politique, il y a également une mobilisation de la société, une évolution de la morale, des pensées qui est très importante à faire. Lors de ce dernier voyage, donc l'épouse d'un disparu politique et sa fille se sont rendus au Paraguay, puisqu'ils étaient aussi originaires du Paraguay. Et là, ils ont découvert une commission vérité et justice au Paraguay. Parce que dans l'exil, les relations qui perdurent avec le temps sont souvent des relations familiales plus que politiques. Et donc, c'est ainsi qu'on apprend donc, qu'il y a une commission vérité et justice aussi au Paraguay. Et pourtant, ce que je tenais aussi à souligner, c'est que Fausto Carrillo était exercé à Formosa, c'est la dernière province d'Argentine. Et donc, comme peut-être un peu ici aussi en France, il y a une très grande différence qui se fait entre les grandes villes et les petites villes. Parce que dans les petites villes, si déjà il y a des problèmes par rapport aux juges, dans une petite ville, même s'il y a un procès et qu'il n'y a pas de juge, on ne peut pas faire grand-chose. Dans des petites villes où tout le monde se connaît, où les avocats qui sont actuellement en place sont les avocats qui ont été formés par la dictature, il se trouve déjà un grand problème, non seulement de formation, mais d'avocats qui puissent, qui se sentent le courage de s'investir dans ces causes. On peut aussi s'étonner que pourtant, même si c'est dans une toute petite province, les personnes qui sont condamnées, ce sont Espada, Steinbach, le général Rearte, qui était le chef des armées sous Menem dans les années 90, Colombo, qui était gouverneur de la province. Ce ne sont pas rien. Ils sont impliqués également dans cette cause, M. Borini, qui était ex-chef de la police et qui actuellement est encore ministre de la province de Formosa. On peut aussi citer M. Bogado, qui est vice-gouverneur et qui est un grand administrateur de Stroessner. En plus de cette différence de traitement, il y a également une grande déficience, donc, comme nous le disions ce matin, financière, qui se traduit très exactement par le fait que même s'il y a des archives, des preuves qui peuvent être récupérées, elles ne peuvent pas être étudiées, parce qu'il n'y a personne pour le faire. Elles restent dans des tribunaux, dans des pièces qui sont accessibles par tout le monde. Un autre peut-être aussi pour cibler, ce sont que toutes ces personnes qui ont été reconnues coupables, qui sont coupables, que tout le monde connaît coupables, elles sont actuellement en liberté parce qu'elles ont été arrêtées pendant 2 ans et qu'elles sont considérées exactement comme un délit de droit commun. Donc elles ont exactement les mêmes droits que tout le monde. Je pense qu'effectivement, il y a un très grand travail à faire sur la réforme judiciaire quand on s'engage dans ce processus de justice transitionnelle. Il y a également une très grande difficulté qui se trouve au niveau national, mais encore plus criante quand ce sont de petites villes. Ce sont la défense des avocats et la défense des témoins et la défense des victimes. Il y a eu, par exemple, dans le cas de Formosa, une très grande lutte des avocats pour que ces personnes ne soient pas protégées par la police, qui est une police qui est de place depuis des années, mais par la gendarmerie, Parce que la gendarmerie, par exemple, ce sont des personnes qui sont sur tout le territoire, mais qui ne restent pas plus de 2 ans dans une localité. Elles ont donc beaucoup moins d'attaches et donc on espère beaucoup plus de dépendance. Dans des cas comme celui-là, l'espoir de débloquer des situations repose entièrement sur l'implication et la mobilisation internationale. C'est ainsi, par exemple, que nous nous sommes mobilisés lors de la venue d'une délégation argentine pour signer la Convention des disparus de l'ONU. Et grâce à cette intervention, pour la première fois, Formosa a eu lieu une exhumation. Il faut savoir que jusqu'à 2007, toutes les provinces de l'Argentine avaient eu au moins une ou deux, voire trois, quatre, cinq exhumations. Formosa n'en avait jamais eu aucune. Alors, lors de cette exhumation, nous avons eu une grande surprise parce que le secrétariat des droits humains de cette province s'était mobilisé, avait mis en place des fonctionnaires, avait fait la sécurité, avait remboursé le billet des anthropologues. On était tous très contents. Seulement, la seule chose, c'est qu'en fait, ils avaient donné comme mission à ces anthropologues de d'abord rechercher des personnes qui avaient disparu dans l'année, non pas 1976 lors de la dictature, mais 1975. C'est-à-dire des péronistes qui avaient disparu lors d'un grand. Donc ce n'est pas une histoire de mettre des personnes qui sont plus importantes que d'autres, que des disparus sont moins importants à trouver que d'autres. Seulement ce sont des volontés qui viennent s'immiscer dans le système judiciaire, qui peuvent venir vicier des causes judiciaires, parce que le juge y donne un mandat pour faire une recherche, et si on fait une autre recherche, cela peut venir remettre en cause l'ensemble du processus. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais que pour la première fois, donc, nous apprenions qu'il y avait une commission vérité et justice. Et donc, en 2007, c'était la première fois que l'épouse de Fausto Carrillo se considérait comme une victime. Puisque jusque-là, toutes les démarches qui étaient toujours entreprises étaient en faveur d'un disparu politique. Que ce soit auprès des organisations, auprès des politiques, auprès de la justice. C'était toujours en faveur d'un disparu. Sauf qu'également, l'emprisonnement, finalement, est également aussi le fait de se mettre en victime. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui sont palpables, qu'on les sent, qu'on ne les dit pas, qu'on ne les nomme pas. Et même si ça fait 30 ans, je pense qu'il est très important de continuer, parce que même s'il existe des collectifs qui savent travailler ensemble, on ne s'est pas encore approprié tous ensemble le fait que ces procédures judiciaires, il faut aussi qu'on les porte collectivement. Ce ne sont pas que des affaires individuelles, personnelles, même si elles le sont. Je pense que c'est une manière de militer nouvelle qu'il nous faut nous approprier. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.